Chapitre 7. L'hiver était commencé maintenant. De grands tourbillons de vent s'engouffraient dans les jardins, en enlevant au passage les dernières feuilles mortes. Don Paolo, souffrant beaucoup de ses jambes infirmes, ne quittait plus son appartement. Ginevra venait passer auprès de lui de longues heures. Il témoignait à la jeune femme une affectueuse sympathie qui était bonne à ce cœur souffrant. Très observateur et connaissant trop bien la force du souvenir d'Hélène chez Silvio, il devinait la tristesse que Ginevra essayait de lui cacher et s'irritait secrètement contre son fils, dont la froideur à l'égard de sa jeune femme ne passait pas inaperçue pour lui, qui les voyait chaque jour l'un près de l'autre. Et cependant, Ginevra devenait une femme délicieuse. Personne n'avait un regard plus charmeur lorsqu'une émotion vive y passait. Où Silvio avait-il les yeux quand, au retour de sa première entrevue, il avait dit à son père « Elle est plutôt bien, mais je la crois assez froide. » Non, elle n'était pas froide. Don Paolo la devinait même capable d'un très grand amour. Mais il comprenait que par dignité, elle n'osait rien en témoigner devant la courtoise indifférence de son mari. Cependant, il ne disait rien. Silvio aimait profondément son père, celui-ci le savait, et se montrait un fils déférent, sauf pour ceux qui avaient trait à ses affaires de cœur. Don Paolo en avait eu la preuve lors de son mariage avec Hélène Duvivier. Il avait dû céder, accorder son consentement devant cette résolution arrêtée. Et il savait de même qu'il serait inutile, pour ne pas dire nuisible, de l'engager à oublier l'autre pour mieux aimer sa seconde femme. Mais il ne pouvait le voir, sans irritation secrète, conserver cette attitude à l'égard de Ginevra, l'accentuer même depuis quelque temps. Car ne s'avisait-il pas de se rendre maintenant, chaque semaine, à Pérouse, chez son grand-oncle, où il passait un jour, quelquefois deux? Don Paolo s'avouait ne rien comprendre à cette conduite, étant donné toutes les qualités physiques et morales de la délaissée, qui l'eussent fait aimer du plus exigeant des hommes. Cette pauvre Hélène l'avait ensorcelée jusqu'au fond de l'âme, songeait-il souvent. Pourra-t-il jamais secouer le joug ? Ginevra a tout pour l'y aider. Ah, que le ciel lui accorde la grâce d'y parvenir ! Mais Ginevra, chaque jour, se décourageait un peu plus, car elle sentait que son mari, au lieu de se rapprocher d'elle, s'en éloignait plus tôt. Ses voyages à Pérouse, demandés par son grand-oncle, assurait-il, étaient beaucoup plus probablement un moyen de le délivrer d'une présence qui l'irritait, le gênait dans son attachement passionné à la morte. Et la jeune femme, maintenant, en arrivait à penser qu'il la détestait. Près de l'appartement de Silvio se trouvait la chambre habitée par Hélène pendant son court séjour à la Villa Orcella. Ginevra ne la connaissait pas. Seule Séraphine, la vieille femme de charge, y entrait parfois pour l'aérer et l'épousseter. Un matin, en passant devant la porte, Ginevra la vit ouverte. Elle s'arrêta, le regard attiré par le portrait suspendu face à l'entrée, au-dessus d'une petite commode ancienne. C'était là sans doute cette Hélène, si passionnément aimée. En bandeau léger, les cheveux blonds tombaient sur le front bien modelé, d'un blanc délicat, comme le visage d'un bel ovale et d'un rouge vif riait, ainsi que les yeux. Quels beaux yeux tendres et gais! Oui, elle avait dû être une charmeuse, cette Hélène. Et quelle coquetterie avait inspiré l'arrangement de cette toilette d'une élégance raffinée, vaporeuse, découvrant des épaules blanches et rondes, des bras fins, dont les poignets s'encerclaient de bracelets. Ginevra restait là, immobile, contemplant l'image de cette femme qui avait pris à jamais le cœur de Silvio. Il lui semblait que dans le sourire d'Hélène, dans la gaieté de son regard, l'ironie apparaissait. Elle se disait sans doute, la rivale triomphante, « Va, cherche à te faire aimer, à me le reprendre. Je ne crains rien. Il m'appartient jusque dans la tombe. » Sur la petite commode, dans un vase de porcelaine ancienne, s'épanouissaient des roses, signe tangible du souvenir que le marquis Orcella conservait à sa femme morte. Ici, sans doute, il venait rêver à elle, oublier quelques instants qu'il était uni à Ginevra Campestri. Un parfum pénétrant, un peu capiteux, imprégnait l'air dans cette pièce que Séraphine venait d'ouvrir quelques instants auparavant. Sans doute était-ce celui de la défunte, et Silvio le conservait ici pour se la rendre mieux présente. Le pas lourd de la femme de charge fit craquer les marches de l'escalier. Ginevra s'éloigna en emportant la vision de ce visage rieur, de ses yeux bleus où se mêlaient la vivacité et la langueur. Elle songeait avec un sourd désespoir. C'est une de ces femmes qu'on ne doit pas pouvoir oublier, en effet. Quelle que fût sa souffrance secrète, elle accomplissait toute sa tâche dans cette demeure avec le même dévouement tranquille qu'elle avait mis à remplir son devoir filial chez son père. Mais maintenant, elle n'espérait plus conquérir l'amour de Silvio. Et tous ses désirs se concentraient sur cette pensée « Je voudrais lui donner un fils, puisque c'est désormais le seul bonheur qui puisse l'atteindre. » Le jour où elle sut qu'elle allait devenir mère, une grande joie descendit en elle. Et quand elle annonça son espoir à Silvio, elle vit pour la première fois une clarté d'allégresse dans les yeux noirs, voilés de songes et de mélancolie. « Vous me rendez bien heureux, Ginevra !» En parlant, il se penchait, lui prenait la main et la baisait un peu plus longuement que de coutume. Elle dit avec douceur « Tant mieux, car je n'ai que ce désir !» Il murmura « Vous êtes très bonne, infiniment bonne et charmante !» Son regard fuyait les grands yeux bleus dont la tranquille profondeur s'éclairait maintenant du reflet de pensée plus ardente. Ginevra se contraignit à sourire en disant avec calme « Non, je ne suis pas si bonne que cela, mais je m'efforce de le devenir. C'est dur souvent. Notre petit enfant m'y aidera peut-être. » Elle prit à son tour la main de Silvio et, cherchant à rencontrer son regard, elle ajouta avec une émotion contenue « Comme nous l'aimerons, n'est-ce pas ?» Un léger frémissement courut sur le visage de Silvio. Entre les lèvres un peu tremblantes, passèrent lentement ces mots « Oui, nous l'aimerons beaucoup. » Puis le marquis s'écarta un peu en retirant sa main. Il parla des soins que devait prendre Ginevra pour ne pas se fatiguer. Peu après, il s'éloigna. Ginevra resta seule dans sa chambre élégante, tout envahie par le tiède rayonnement d'un soleil d'hiver. Elle appuya son bras à l'accoudoir de son fauteuil et sa pensée retourna en arrière vers ce temps des fiançailles où elle était si tranquille, allant sans appréhension vers l'avenir représenté par ce jeune homme sérieux et bon qui avait donné un si bel exemple de fidélité conjugale. Elle ne s'imaginait guère alors qu'une morte pût être une rivale sérieuse. Mais sitôt, son erreur lui était apparue. Et maintenant, c'était fini. Elle ne serait toujours pour lui que celle qui avait remplacé Hélène. Une larme glissa le long de la joue mate et tomba sur l'alliance qui entourait le doigt de la jeune femme.